RFI 13h30, à Niamey midi et demi, à Bamako et en temps universel. Tout de suite, Afrique Midi, avec vous Grégoire Morelli.
Bonjour Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Et oui, Afrique Midi, c'est parti, nous sommes ensemble pour une demi-heure avec pour commencer votre journal. Et ce nouvel espoir de réponse pour les victimes d'In Amenas, le procès de l'attaque terroriste de ce site gazier en Algérie il y a 12 ans doit reprendre aujourd'hui. Après plusieurs mois de suspension, 4 accusés comparaissent pour appartenance à un groupe terroriste armé notamment. Nous serons aussi au Mali où cela fait tout juste 2 ans ce dimanche que 3 membres du MPPM, le mouvement pour la paix au Mali, ont été arrêtés pour complot contre la sûreté de l'État. Moulay Baba Aïdara, Mahamoud Mohamed Mangané et Amadou Togola sont depuis en prison en attente de leur jugement. Et puis, que veut Joseph Kabila? L'ancien président de la RDC a fait vivement réagir après sa charge contre l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce vendredi. Il a également annoncé un retour prochain à Goma. Mais dans quel but? Élément de réponse dans cette édition. En Algérie, le procès de l'attaque terroriste du site gazier de Tighentourine doit reprendre aujourd'hui à Alger. Le procès de cette attaque près d'In Amenas dans le sud-est de l'Algérie avait été ouvert en 2024 avant d'être repoussé du fait de l'absence de l'avocate de l'un des accusés. Ainsi, ce dimanche, ce sont 4 accusés qui, je vous le disais, comparaissent pour appartenance à un groupe terroriste armé, prise d'otage et homicide volontaire avec préméditation. Wely Diallo, durant 3 jours en janvier 2013, un commando terroriste avait pris en otage les employés du site jusqu'à ce que les autorités algériennes ripostent par une opération musclée.
À l'aube du 16 janvier, 10 pick-up pénètrent l'enceinte du complexe gazier. Rapidement, ils séparent expatriés et travailleurs locaux et préparent leur siège. Selon des témoins, ils font porter des ceintures d'explosifs aux otages et menacent de faire sauter le site. L'attaque est revendiquée par le groupe des signataires Par le Sang, dirigé à distance par Mokhtar Belmokhtar, ancien membre d'ACMI. Il demande aux militaires qui entourent le périmètre de quitter la zone et exige la fin de l'agression française au Mali, en référence à l'opération Serval qui a débuté 5 jours avant. L'armée algérienne lance 2 assauts les 17 et 19 janvier. Une trentaine de terroristes sont neutralisés, mais on déplore la mort d'une quarantaine d'employés, des victimes collatérales selon leur famille. Plusieurs seront présentes à ce procès. Elles demandent transparence et vérité sur l'intervention de l'armée algérienne sur le site gazier.
Au Mali, cette fois, cela fait tout juste 2 ans. Aujourd'hui, que 3 membres du MPPM croupissent en prison. Également membres du parti politique Sadi, Moulay Baba Aïdara, Mahamoud Mohamed Mangané et Amadou Togola ont été enlevés entre le 25 mai et le 23 juin 2023 par la sécurité d'État qui leur a infligé de graves tortures pendant plusieurs mois avant que leur cas ne soit judiciarisé. Accusés notamment de complot contre la sûreté de l'État, les 3 hommes avaient dénoncé des exactions attribuées à l'armée malienne contre des civils. Et depuis 2 ans, ils attendent donc d'être jugés, David Bachet.
Leurs conditions de détention sont de plus en plus dures, déplore un proche qui décrit des brimades, des mois sans pouvoir accéder à un médecin. Ils veulent nous faire du mal, mais c'est à eux qu'ils font du mal, déclare encore cette source, qui désespère de la justice des autorités maliennes de transition et ne s'en remet plus qu'à Dieu. Moulay Baba Aïdara, Mahamoud Mohamed Mangan et Amadou Togola souffrent toujours de séquelles physiques et psychologiques liées aux tortures infligées par la sécurité d'État, flagellation, scarification, électrocution des testicules. Malgré les décisions du juge d'instruction malien en charge de l'affaire et de la Cour africaine des droits de l'homme en octobre dernier, et malgré un appel des experts onusiens sur les droits humains en mars, les demandes de libération provisoire des 3 détenus, pour raisons médicales et vices de procédure, ont été rejetées. Selon un arrêt de la Cour d'appel du Mali, les 3 hommes auraient reconnu vouloir renverser les autorités de transition. L'entourage des 3 hommes dément l'authenticité de tels aveux et dénonce un montage monstrueux. Les 3 militants du MPPM avaient été enlevés en dehors de tout cadre judiciaire il y a 2 ans, après avoir dénoncé des exactions attribuées à l'armée. Aucune date n'a été fixée pour leur procès.
David Bachet. Mali, toujours. Au moins 4 membres d'une équipe médicale malienne de retour de mission ont été enlevés hier dans l'ouest du pays par des hommes armés. L'équipe sanitaire de la localité de Nioro, composée notamment d'un médecin en chef, revenait d'une mission dans la région de Kay, non loin de la frontière sénégalaise, lorsque des hommes armés, présumés djihadistes, les ont kidnappés. La direction régionale de la santé de Kay réclame la libération des personnes enlevées. Un mot du Mali encore, où Alou Badra Soko figure de la la société civile, a été libéré hier. Coordonnateur de l'appel du 20 février pour un retour à l'ordre constitutionnel et président du mouvement « Touche pas à mon argent », il avait été arrêté à Bamako, la capitale, en mars dernier, hors de tout cadre judiciaire. Ses proches ont accueilli sa libération avec joie et soulagement. RFI, il est 13h35 à Niamey, le Niger, où la ville frontalière de Diffa a connu une attaque djihadiste d'une rare intensité en fin de semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Des combats d'une grande violence ont en effet opposé les forces de défense nigériennes aux hommes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Les terroristes ont infiltré plusieurs zones de Diffa avant d'être repoussés par l'armée nigérienne de l'autre côté de la frontière avec le Nigeria. Ces dernières semaines, le groupe djihadiste connaît une résurgence dans le bassin du lac Tchad qui s'explique à la fois par l'absence de coordination entre les États de la région, mais aussi par un recrutement massif de miliciens Lucawara, Sidi Yansane.
De l'avis de tous les observateurs, mais surtout des habitants de Diffa, l'État islamique n'avait pas mené une opération d'une telle envergure depuis 10 ans. La faute en partie au retrait du Niger de la force multinationale mixte il y a 2 mois, selon Sedi Kaba, qui préside le centre de réflexion et d'études sur le Sahel.
Le Niger, compte tenu sans doute de l'expérience que son armée a eue par le passé, a encore une capacité de résistance qui a permis de réorganiser tout de suite la contre-offensive et de chasser les gens de Boko Haram. Mais il ne s'en sortira pas seul, il subira toujours des attaques. Alors que s'il coordonne avec le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin, même s'il n'est pas dans le bassin du lac Tchad, fait partie de la force mixte, ça va avoir plus d'efficacité que s'il se bat tout seul. La réponse pour être efficace ne peut être que transnationale.
L'Institut de recherche stratégique ajoute un autre facteur, le recrutement au sein du groupe d'autodéfense Lucawara, présent dans le nord-ouest du Nigeria depuis 2018, mais identifié depuis peu comme un nouveau groupe d'insurgés par le Nigeria, le directeur de l'IRS, Lassina Diara.
Le groupe Lucawara, qui était composé des chasseurs traditionnels et autres agriculteurs qui attendaient encore une réponse de la part de l'État, mais cette réponse n'est pas venue et donc ils se sont radicalisés dans un premier temps, mais avec des actes de banditisme, et ensuite il y a eu une rencontre idéologique avec les groupes qui constituent aujourd'hui des premières ressources humaines pour le SWAP.
Pour l'expert, l'État islamique joue sa survie dans la région face à son rival d'Al-Qaïda qui renforce ses positions dans le Sahel.
En République démocratique du Congo, le discours de l'ancien président Joseph Kabila en exil continue de susciter de nombreuses réactions. Un discours en forme de charge contre Félix Tshisekedi, dans lequel l'ex-président lance aussi un appel à la résistance et redit sa volonté de se rendre à Goma, alors même qu'il est accusé par les autorités de soutenir la rébellion du M23 AFC. Comment comprendre cette prise de parole, sa première adresse à la nation depuis 2019, et alors que le Sénat congolais vient d'autoriser des poursuites à son encontre? Décryptage de la stratégie de l'ancien président congolais avec Florence Maurice.
En répétant son intention de se rendre à Goma dans les prochains jours, Joseph Kabila envoie un double message. Il dit son refus de se laisser intimider par la menace de poursuite en justice et rappelle qu'il n'entend pas accepter d'être écarté des négociations en cours pour mettre fin au conflit dans l'est du pays. Ses propos sur les différents canaux de médiation en témoignent. Joseph Kabila dit accueillir favorablement le dialogue entamé entre l'AFC M23 et les autorités congolaises à Doha, mais c'est à la médiation menée par les évêques congolais qui apporte son soutien le plus net, des évêques qui plaident, eux, pour un dialogue inter-congolais rejeté jusqu'à présent par Kinshasa. Autrement dit, l'ancien président s'insurge de voir son successeur accepter de dialoguer avec son opposition militaire soutenue par le Rwanda et non avec son opposition politique interne, opposition dont Joseph Kabila souhaiterait prendre le leadership. L'ancien président n'est pas plus explicite sur ses intentions, mais laisse entre les lignes planer la menace d'un coup de force en affirmant être prêt aujourd'hui encore au sacrifice suprême pour défendre sa patrie.
Les précisions de Florence Maurice. Direction le Cameroun maintenant, où de nombreuses femmes se sont mobilisées contre les féminicides et les violences basées sur le genre. Des femmes de tout horizon et de toute classe sociale étaient ainsi réunies ce vendredi à Yaoundé pour crier leur douleur face à ce qu'elles considèrent comme la banalisation des violences domestiques. Mais surtout, elles ont décidé de passer à l'action, avec notamment la mise en place d'un numéro d'urgence, Polycarpe Samba.
Sénatrice et femme d'affaires, Françoise Pouyanné a décidé de dire stop aux féminicides et aux violences faites sur la base du genre.
Quand je regarde autour de moi, je vois les violences tous les jours. C'est devenu affreux. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire la pression sur l'État, pour faire la pression sur le ministère de la Justice. Et c'est pour cela que je dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est stop.
Et plus que les paroles, la sénatrice a déjà engagé un train d'action, notamment une fondation dédiée à la cause, en partenariat scellé avec une structure hospitalière publique. publique pour la prise en charge gratuite des victimes, en plus d'un numéro noir pour recueillir les alertes et plaintes des femmes.
Le numéro noir, parce que la vie de la femme, c'est le noir. La femme vit de stigmatisation toute sa vie. Elle vit de la terreur, de l'horreur, depuis les cellules familiales.
Présente lors du lancement de la dite fondation, des femmes parlementaires se sont elles aussi engagées à mener le plaidoyer à l'Assemblée nationale pour le renforcement du cadre législatif consacré à la protection des femmes. Joséphine Simo, députée.
Nous, au niveau du Parlement, nous avons décidé qu'il fallait, au niveau du réseau des parlementaires pour la promotion du genre, initier une plénière spéciale au mois de juin pour faire l'état des lieux des lois qui régissent les violences basées sur le genre et voir à quel niveau se situe la loi.
Pour les jours à venir, toutes ces femmes engagées ont annoncé des campagnes et conférences débats sur le sujet à travers le pays, y compris dans les villages les plus reculés. Pour les Karpesomba Yaoundé, RFI.
Et ce numéro pour recueillir les alertes et plaintes des femmes victimes de violences est le plus 237-675-121-679. Vous pouvez également composer cet autre indicatif, le plus 237-692-528-635. En France, clap de fin sur la croisette, le festival du cinéma de Cannes a refermé ses portes hier. Et c'est le réalisateur iranien Jafar Panahi qui a reçu la Palme d'Or pour son film Un simple accident. A noter que le réalisateur nigérian Akinola Davis Jr. a reçu une mention spéciale de la Caméra d'Or, prix réservé au premier film. Et depuis plusieurs années, le cinéma africain conforte sa participation dans les différentes sélections du festival, ce qui pour beaucoup est déjà une récompense en soi, Ouda Ibrahim.
L'Égypte, la Tunisie, le Nigeria, le Cameroun et le Maroc représentaient cette année l'Afrique au Festival de Cannes avec une place prépondérante pour le cinéma égyptien, 3 films parmi les 7 présents. Même sans avoir eu des prix, les films africains ont été bien accueillis et appréciés. Celui de la Tunisienne Erige Sehiri, Promis le ciel, a été mis à l'honneur à l'ouverture de la compétition Un certain regard avec l'immigration de femmes comme thème. Le film proposait cependant des thèmes diversifiés, fiction historique, drame social ou polar, comme Indomptable de l'humoriste camerounais Thomas Ndjijol, projeté à la quinzaine des cinéastes. Le Nigeria était présent pour la toute première fois à la sélection d'Un certain regard avec L'ombre de mon père d'Akinola Davis Jr., un premier film touchant sur un père et ses enfants à Lagos au début de la crise politique des années 90. Il a reçu une mention spéciale de la Caméra d'Or. Ce cinéma africain est fait aujourd'hui par des jeunes héritiers des pères fondateurs et dont la majorité se compose de binationaux qui préfèrent toujours tourner dans leur pays d'origine. Houda Ibrahim, Cannes, RFI.
On continue de tirer le bilan du festival avec le premier film nigérian qui a figuré en sélection officielle, film qui a été récompensé d'une mention spéciale. Excusez-moi, non, c'est ça, d'une mention spéciale. Ainsi, My Father Shadow, signé du réalisateur Akinola Davis Jr., raconte une histoire semi-autobiographique. Le réalisateur a perdu son papa très jeune et il filme le voyage d'un père donc et de ses deux fils à travers la mégalopole de Lagos que les enfants découvrent pour la première fois. Akinola Davis Jr., je vous propose de l'écouter.
C'était un tournage difficile. Être présent sur la scène mondiale du festival le plus prestigieux au monde, c'est juste un rêve qui devient réalité. Je pense que le Nigeria a une industrie du cinéma dynamique et ses talents qui franchissent les frontières montrent le pouvoir de la collaboration. Mon film est nigérian et britannique. On a eu des financements divers et c'est pourquoi mon film est sur la scène mondiale. My Father's Shadow est basé sur les souvenirs de mon enfance. C'était important de le faire à travers le point de vue des enfants. Les enfants n'ont pas de biais, ils sont apolitiques, libres de préjugés.
Le réalisateur nigérian Akinola Davis Jr. On termine avec du sport, de l'athlétisme et le grand retour du meeting international de Dakar après plusieurs années d'absence. Un rendez-vous placé sous le signe des Jeux Olympiques de la Jeunesse, les JOJ, que le Sénégal accueillera l'an prochain. Pour la première fois, des épreuves étaient au programme dans la catégorie junior. Notre correspondant Wahani Johnson-Sambou a suivi Senia Boufol, une athlète de 18 ans qui a éclaboussé le meeting.
20 heures des épreuves du 100 mètres et du 400 mètres féminin chez les moins de 18 ans, Seyna Boufal tisse parfaitement sa toile en direction des Jeux Olympiques de la Jeunesse, un objectif devenu presque obsessionnel pour cette jeune athlète sénégalaise.
Les Jeux Olympiques, c'est un rêve, mais je vise plus haut et je peux le faire.
Derrière Samine Frel, la jeune championne impose le respect par sa puissance sur les pistes, ce qui en fait l'un des grands espoirs du Sénégal au JOJ de l'année prochaine. Pour son entraîneur Alioune Sène, le rêve est bien permis.
Chaque saison, elle améliore sa performance. D'ici l'année prochaine, si elle améliore encore cette performance, elle fera une belle course. C'est sûr et certain.
Et sa performance sur la piste du stade Léopold Sédar Senghor ce samedi en dit long sur le potentiel de la sprinteuse de 18 ans. Seyne Boufal mesure pleinement l'ampleur de la tâche qui l'attend. La Rufusquoise sait ce qu'il lui faut pour briller à la maison.
Des entraînements, de la concentration et d'écouter les conseils des élèves. Surtout, ça fera vraiment du bien.
Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous sur RFI. Afrique Midi, ça continue.
Afrique Midi, Grégoire Morelli.
À suivre durant les 15 prochaines minutes sur la radio du monde. De la littérature, Tyrkandar Chanda s'intéresse à un premier roman très prometteur, celui de l'auteur sénégalais Cheikh Amadou Bamba Diaye, qui signe Soleil Invincible. Enfin, après le Québec, le continent africain, le Luxembourg, c'est l'Italie qui est mise à l'honneur cette année au salon Révélation au Grand Palais à Paris, un événement international qui rassemble 550 artisans d'art de 35 pays différents.
L'Afrique en marche.
Mais avant cela, nous allons en Guinée pour parler du centre médical Serfig à Conakry. Ce centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée s'est vu décerner un prix par la fondation Mérieux pour récompenser l'efficacité de son travail. Une dotation de 500 000 euros lui a été remise. L'Afrique en marche, c'est avec Frédéric Gara.
Madame, monsieur, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. La fièvre Ebola continue de progresser en Afrique de l'Ouest. Et pendant ce temps-là, à l'hôpital de Conakry, les médecins sont très vigilants.
Bonsoir à tous. Le virus Ebola en Guinée, l'épidémie aurait atteint Conakry. Selon l'UNICEF, le bilan officiel fait état de 59 personnes mortes des suites de la maladie.
2013-2014, la Guinée fait les gros titres des journaux face à l'épidémie d'Ebola. Plus de 11 000 morts, un virus mal connu qui effraie et peu de moyens sur place pour endiguer la propagation de la maladie. C'est à cette période que naît le Serfig pour mieux préparer et lutter contre la prochaine épidémie. Éric Delaporte, professeur en maladie infectieuse à l'IRD, se souvient de la genèse du projet.
Et puis on s'est aperçu qu'il fallait prévenir les nouvelles épidémies, qu'il n'y avait pas de centre de recherche. Et c'est à ce moment-là qu'avec le président de l'université, Gamal Nasser, il propose, et si on faisait un centre à la fois de prise en charge et de recherche. C'était ça la genèse du CERFIG, du Centre de Recherche International en Infectiologie. Ils ont développé leur projet de recherche, ils ont développé leur équipe, et surtout, ils ont montré que prévenir les épidémies, c'était possible, puisque dans ce centre, on dit, il y a les séquençages de plus haut niveau, les analyses de virus de plus haut niveau. Et lorsqu'il y a eu de nouveau, 5 à 6 ans après, une nouvelle épidémie d'Ebola, ils ont été capables d'aller tout de suite sur le terrain, de faire le diagnostic en 2-3 jours, alors que l'épidémie avant, ça avait mis 3 à 4 mois et ça avait été fait en France.
Abdoulaye Touré, pharmacien et professeur en santé publique, l'un des deux fondateurs du Serfig de Conakry.
Aujourd'hui, le centre s'est réellement imposé dans le paysage comme étant un centre incontournable en termes d'expertise dans le diagnostic, dans la surveillance des maladies infectieuses. On forme des médecins, des jeunes médecins, des jeunes pharmaciens et des jeunes biologistes dans plusieurs domaines, que ce soit en microbiologie, immunologie, en santé publique. Notre fonctionnement au Serfig est justement basé sur ce trépied d'interdisciplinarité qui nous permet de bâtir une équipe qui répond de façon holistique aux problèmes de santé.
Alpha Kabiné Keïta, chercheur guinéen et médecin virologue, cofondateur du Serfig, se réjouit d'avoir reçu ce prix de la Fondation Mérieux, dont les 5 milliards de francs guinéens permettront d'aller plus loin dans leur recherche et la formation en infectiologie.
Oui, ça fait chaud au cœur, hein, parce que si on peut dire d'une certaine façon, on vient de loin. Les défis sont immenses et par le biais de la recherche, on peut apporter beaucoup à son pays. Et donc, je pense que nos parcours illustrent un peu cela. Hein, voilà. Donc, à partir de quelques idées, on peut bâtir quelque chose, on peut impacter un système de santé et on peut permettre à beaucoup d'autres personnes de vivre de nos idées. Voilà. Donc, c'est ce message particulier que je voulais faire passer.
Un message que partage, bien sûr, le professeur Abdoulaye Touré.
Ce prix pour nous est aussi une façon de montrer aux plus jeunes que c'est possible. C'est possible de s'investir dans notre pays, de développer nos idées, de trouver des solutions nous-mêmes à nos problèmes, que ce soit pas un travail au rabais, mais que ce soit un travail de qualité qui respecte des normes dans une rigueur qui sera très difficilement contestable. Pour nous, le Primérieur, c'est un symbole pour nous d'espoir et un symbole d'engagement.
Aujourd'hui, le CERFIG est devenu un centre de référence en Afrique de l'Ouest. S'il y a eu 11 000 morts en Guinée en 2014, en 2021, lors de la dernière épidémie, grâce au savoir-faire des chercheurs, la maladie n'aura fait qu'une dizaine de victimes.
L'Afrique en marche.
C'était avec Frédéric Gara. Et dans l'actualité internationale de ce dimanche 25 mai, pour la deuxième nuit consécutive, l'Ukraine a subi une attaque aérienne massive tôt ce matin de la part de la Russie. Au moins 12 morts à déplorer. Moscou, de son côté, dit avoir été contraint de fermer ses aéroports de manière temporaire quelques heures avant un dernier échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Une fermeture du fait d'attaques de drones ukrainiens. Au Proche-Orient, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce matin la mort de 8 personnes dans des frappes aériennes nocturnes dans le centre et le nord du territoire palestinien assiégé. Les attaques aveugles d'Israël contre Gaza doivent cesser, déclare l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et au menu de la chronique littéraire de ce dimanche, un premier roman écrit par un Sénégalais particulièrement talentueux, Cheikh Amadou Bamba Ndiaye, signe Soleil Invincible. Dans cet ouvrage, ce trentenaire explore avec brio l'expérience de la jeunesse africaine contemporaine, tiraillée entre l'attrait de l'ailleurs et le besoin d'enracinement. Un premier roman poignant et prometteur, Tirtan Karchanda.
Cheikh Amadou Bamba Ndiaye est un jeune homme étonnant, débordant d'énergie, de vitalité et d'initiative. À 30 ans, il est bardé de diplômes obtenus dans des universités prestigieuses d'Afrique et du monde. L'homme est aussi un amoureux des mots. Venu à la littérature par la poésie, il a à son actif une dizaine de recueils et livre avec Soleils Invincibles, son premier roman. Cheikh Amadou Bamba Ndiaye.
Au début, c'était les déchets de la terre. Crin d'œil à Fanon, les damnés de la terre. J'avais ce besoin aussi de sortir de cette métaphore un peu dégradante, défaitiste. Et je voulais une incarnation plus forte, plus valorisante. Et pour moi, effectivement, soleil ferré africain, soleil ferré migrant, soleil, c'est toutes les personnes, peu importe où elles se trouvent sur la planète, qui s'évertuent à imposer leur dignité.
Draman, le personnage principal du roman, est de cela. Les vicissitudes de sa vie, jalonnées d'échecs et de déceptions, ne parviennent pas à le réduire en déchets humains, ni à tuer son désir brûlant de liberté. C'est ce que racontent les 377 pages de Soleils Invincibles. Le roman s'ouvre sur l'expulsion de Draman vers son pays natal, encadré par deux policiers de Sissane, le pays où le personnage était parti faire des études supérieures. Revenu chez lui, dans la République de Biomo, pays fictionnel qui ressemble beaucoup au Sénégal, il est confronté à des drames familiaux. Son père meurt de chagrin causé par l'échec de son fils à réussir sa vie dans le pays des Blancs. Ses sœurs sont contraintes de quitter le foyer familial pour avoir défié le code d'honneur. Pour échapper au poids de la famille, Draman se lance dans un projet fou consistant à regagner Sissane, son pays de rêve, en passant par le désert et la mer, des voies aussi clandestines que dangereuses. C'est une aventure vouée à l'échec, mais le roman se clôt sur une note d'espoir avec la promesse pour le personnage de se réinventer en retournant dans son village. Cheikh Amadou Bamba Ndiaye.
L'ambition de ce texte, c'était justement raconter l'Afrique sur le temps long. Maintenant, l'immigration ou le racisme sont des portes d'entrée. Et ce n'est pas pour rien que le roman même commence par là. Ça commence à Sissane, dans le métro, mais on se rend très vite compte que l'histoire se déporte et on entre en Afrique où se trouve le cœur du roman.
Soleils Invincibles est un premier roman ambitieux. L'écriture de Cheikh Amadou Bamba Ndiaye est souvent incisive, riche en observations et en émotions, comme le passage que l'on va écouter évoquant les retrouvailles du héros avec sa mère.
Ma mère sursaute en me voyant franchir la porte. Son corps longiligne se déploie vers le ciel, tandis que son visage reste enveloppé par l'obscurité. Une obscurité fine, fragile mais acharné, qui résiste à la pleine lune. le vent froid remue son ample boubou et fait frotter son froid de tête, dont elle a toujours disposé les deux pans comme des ailes de papillon. Des profondeurs de son corps, droite et immobile, furent ces mots qui me parviennent avec le tonnerre du jugement dernier.
Toi, Draman, ici?
Modèle de résilience, Thérèse a attendu avec patience le retour de son fils et elle l'accompagnera ensuite dans sa réinvention de soi. Et si c'était elle, le véritable soleil invincible de cette histoire?
Tirtan Karchanda pour cette chronique littéraire, une chronique que vous pouvez bien sûr écouter sur notre site rfi.fr. Stéphane Galerno est un créatif dans l'âme. Cet architecte d'intérieur, designer et depuis 2022 président d'Atelier d'Art de France, un syndicat professionnel des métiers d'art. C'est également un passionné, Stéphane Galerno. Son parcours mêle création, gestion d'entreprise et engagement et il œuvre pour valoriser la qualité, la transmission et la reconnaissance des artisans d'art tout en développant des événements internationaux comme le salon Révélation. La 7e édition de cette biennale a lieu jusqu'à ce soir au Grand Palais à Paris. Je vous le disais, après le Québec, le continent africain, le Luxembourg, c'est l'Italie qui est mise à l'honneur cette année. Et cet événement international rassemble 550 artisans d'art de 35 pays, Maria Afonso.
Je crois qu'il faut être honnête avec le moment où on se fait plaisir, où on crée. Donc on laisse agir le cerveau, on laisse agir la main. Si on est honnête avec soi-même, ça suit son cours et c'est les gens qui s'adaptent à vos créations. C'est pas à vous de vous adapter aux demandes du marché.
Stéphane Galerno, fondeur d'art et président du syndicat professionnel Atelier d'Art de France.
Il n'y a pas d'équivalent d'Atelier d'Art de France nulle part dans le monde. Grâce à Maison et Objet, ça nous permet d'avoir une indépendance financière et politique. Donc on s'occupe vraiment de nos adhérents et de nos non-adhérents aussi. Par contre, il y a d'autres pays qui ont des organismes spécifiques, soit plus dépendants du ministère de l'Artisanat, soit plus dépendants du ministère de la Culture, mais qui sont orientés sur les métiers d'art.
Stéphane Galerno est né en Allemagne. Il a grandi entre la Vendée, à l'ouest de la France, et Aurillac, dans le sud-ouest. Formé aux arts décoratifs, il débute sa carrière dans la création de mobilier pour de grandes maisons avant de lancer sa propre société de fonderie d'art, Création Galant. La création pour Stéphane Galerno est une quête d'excellence, un processus de recherche, d'expérimentation et de transmission où chaque pièce raconte une histoire, un savoir-faire, une identité. L'édition Révélation de 2025 a reçu des candidatures venues de 35 pays.
Cette année, ça a été assez exceptionnel. On a reçu presque 900 candidatures, sachant qu'on n'avait que 550 places, 35 pays représentés. Donc il y a une grosse, grosse demande de l'international aussi. On s'est construit de façon institutionnelle et commerciale et culturelle aussi. Le ministre du Québec a découvert ses créateurs en venant sur le salon qu'il avait financé sur Paris avec Révélation. On a d'autres exemples avec le Chili, le Brésil ou autres. Ils découvrent l'événement, c'est une chose, ils découvrent leurs créateurs. Et après, ils mettent en place des choses pour les porter de la même façon chez eux. Ça crée des ponts et des liens.
Entre son métier et la présidence d'Atelier d'Art de France, Stéphane Galerno est au cœur des métiers d'art. Il souhaite construire des connexions et assurer la pérennité et l'évolution de ses savoir-faire précieux.
C'est amusant quand on regarde les CV. Être adhérent à Atelier d'Art de France, il y a le côté syndical, il y a le côté curation qui donne une certaine valeur de label, et après il y a les salons qu'on arrive à faire. Et dans le CV, quand ils ont fait Révélation, c'est en première ligne. Nous, on juge sur la réalisation, la pièce avec les critères de créativité, de savoir-faire.
Retrouvez l'univers de Stéphane Galerno sur RFI.fr, chronique 100% création, et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso, c'est ainsi qu'Afrique Midi se termine. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la réalisation aujourd'hui, c'était Benoît Raymond, à la rédaction en chef Frédéric Gara. Merci à eux. D'ici quelques secondes maintenant, ce sera un nouveau journal avec Karine Bellicha. On parlera d'Ukraine, de droits de douane américain, mais aussi tennis, puisque débute aujourd'hui Roland Garros. Raphaël Nadal est attendu, mais sans sa raquette, qui est une première. Hein, lui qui pourtant a remporté 14 fois ce tournoi du Grand Chelem sur terre battue. Bonne suite des programmes sur la Radio du Monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
les premiers secours, connaître les gestes qui sauvent en cas d'urgence.
Mardi,
trouver sa place dans la famille, c'est une question d'équilibre.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, dans ma Selecta, et même dans l'histoire d'un live, un concert acoustique de la chanteuse américaine Alicia Keys, il est beaucoup question d'amour. Celui qu'on pense avoir trouvé, celui qu'on laisse filer, l'amour dont on a besoin, par-dessus tout.
Bonne pulsation du monde, avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU, sur RFI.
BPM.